Bonjour et bienvenue à tous dans le nouveau numéro du débat politique d'aujourd'hui. Il est consacré au résultat du vote référendaire du 30 juillet dernier. Selon les résultats provisoires de l'Autorité nationale des élections ANE, le oui a remporté avec plus de 95 et le non en a recueilli seulement plus de 4%. Le gouvernement parle d'un succès et d'une adhésion massive de la population à son projet de la nouvelle constitution. Par contre, l'opposition démocratique et une partie de la société civile qualifient de coup de force et de fiasco le référendum constitutionnel. Après la proclamation des résultats provisoires du vote référendaire, il reviendra donc à la Cour constitutionnelle de donner son verdict. Question, dans quelles conditions le vote référendaire s'est-il déroulé? Pourquoi l'opposition parle-t-elle d'un fiasco et d'une farce référendaire? Quelle serait donc la crédibilité de la nouvelle constitution lorsque des organisations de la société civile et de l'opposition ont déclaré n'avoir pas reconnu la crédibilité de ce processus? Voilà tant d'interrogations qui vont nous guider tout au long de ce débat. Nous avons Alexis Nduya-Bella, conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, un des experts nationaux qui a contribué à la rédaction de la nouvelle constitution et enseignant-chercheur à l'Université de Bangui. Monsieur Nduy, bonjour.
Bonjour, c'est Armando. Je salue les auditrices et les auditeurs de Radio Dekeluka.
Et monsieur Joseph Bindunga, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour Nduya-Bella, bonjour les auditeurs.
Et voilà, député de Bimbo 3, président du mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution du Centrafrique, ancien ministre. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est dans un instant.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Dekeluka.
Ouvrons le bal avec cette situation qui prévaut au Niger. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, hausse le ton contre les Houthis. Elle envisage dans les jours qui suivent une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. En rappel, depuis le 26 juillet dernier, le président Mohamed Bazoum a été séquestré par un groupe de militaires. Ils ont mis en place déjà un gouvernement de 21 ministres. Monsieur Nduy, que vous inspire cette affaire au Niger?
C'est regrettable, monsieur Armando. On est en train d'assister à un recul de la démocratie, de bafouer l'expression de la volonté du peuple. Le président Bazoum a été démocratiquement élu par les Nigériens. Et voilà qu'on a assisté, il y a quelques jours, à un coup de force qui vient remettre en cause le processus démocratique. Et donc, vous voyez, c'est bien la communauté internationale que, au niveau de la CEDEAO, hein, ce comportement a été décrié. Le coup d'État, vraiment, absolument, je crois que c'est interdit par la Charte africaine des droits de l'homme et de la bonne démocratie. Donc, pour accéder au pouvoir, je pense que dans la constitution béninoise, nigérienne, il est prévu que voilà, l'alternance ou bien l'accession au pouvoir se fait par la voie des urnes et non par un coup de force. Donc, on est tout à fait regrettable de constater que bon, le fait s'est produit. Et bien, ce qu'on souhaite en ce moment, puisque là, il y a le président qui est pris en otage, des négociations sont en train d'être effectuées de part et d'autre. Et donc, il faut privilégier la voie du dialogue.
Mais si il y a plusieurs tentatives de dialogue avortées, des négociations avec la junte au pouvoir, et la CEDEAO a décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire d'utiliser la voie militaire.
Oui, mais c'est ça,
quand
ce qui est regrettable, on ne peut pas utiliser la voie militaire en ce moment. Si on l'utilise, c'est vraiment au risque, au péril même de la vie du président Bazoum. Ce sont des milliards. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont déjà mis en place un gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, à ce niveau d'évolution de la situation au niveau de Niger? Et donc, il faudra peut-être commencer. C'est une première. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, que ce soit en Afrique ou en Europe, des États qui se mobilisent pour aller rétablir l'ordre démocratique dans un État donné. C'est une première, mais si ça peut marcher, tant mieux. Mais voilà. Si
une première,
Bazoum,
au niveau de la CEDEAO, ils ont déjà fait.
Oui,
ils avaient fait quelque chose en amont.
Pour
rappeler les gens à l'ordre. Oui. Mais est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui une manière pour les autres présidents et les restants qui sont au pouvoir au niveau de la CEDEAO, ils sont en train de vouloir couper court à cette nouvelle pratique, sinon ils seront contaminés tous?
Ce n'est pas une nouvelle pratique, c'est une vieille pratique. Nous l'avons expérimenté pendant des années et des années. Donc, ce n'est pas normal. C'est vrai, c'est une stratégie mise en place pour couper court. Mais si ça peut marcher, bon, tant mieux. Et pour l'instant, je pense que c'est extrêmement dangereux. Si les militaires, les putschistes se braquent, eh bien, il risque d'exécuter d'un moment à l'autre le président Bazoum, effectivement. Ce sera regrettable pour toute la communauté internationale.
Monsieur Bindunga,
et les citoyens nigériens.
L'option militaire est donc envisagée en ce moment. La tension devient de plus en plus électrique. tant au Niger que dans la sous-région. Est-ce que le choix militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel est-il primordial, j'allais dire, en ce moment?
D'abord, je condamne ce coup d'État, cet énième coup d'État. Vous savez bien que le MDRC a toujours condamné les coups d'État et n'a jamais soutenu les putschistes. Et nous l'avions démonté plusieurs fois en République centrafricaine, malgré que nous sommes l'un des champions en matière de coup d'État. Ce qui s'est passé au Niger, il faut d'abord chercher d'où ce que ça vient. Mais c'est Poutine. C'est Poutine.
Ah bon?
Mais vous savez, on a coupé la queue du serpent Union soviétique, URSS, sans couper la tête. Et Poutine, le responsable de la sécurité de l'espionnage russe, lorsqu'il est devenu président de la Russie, après la dislocation de l'Union soviétique, a commencé à préparer sa vengeance, la vengeance russe. Et c'est en coulisses que la Russie s'est organisée pour pouvoir chasser l'Occident et les États-Unis d'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé des suppôts, des serviteurs, des agents d'exécution en Centrafrique, au Mali, au Burkina et aujourd'hui au Niger.
Mais la situation du Niger, vous savez que c'est une question interne, c'est une polémique, c'est ça en fait.
Écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a la fumée, s'il y a eu ce putsch-là, c'est quelque chose qui a été préparé de main de maître en coulisses et qui a été exécuté par des agents recrutés par la Russie à travers le groupe Wagner avec son chef. La question que vous m'aviez posée, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont péché par excès d'incompétence. Je les traite d'incompétents, pas pour rien, parce qu'ils savent, dès cette première manigance en Guinée, après au Mali, ensuite au Burkina Faso et maintenant au Niger, il y a de quoi.
Et c'est peut-être ça qui les a fait réveiller.
Oui, mais ils ont réagi en retard.
Donc la réaction.
Ils ont réagi en retard. Ils ont laissé pourrir la situation. Lorsque ce chef de la sécurité présidentielle a enlevé et séquestré le président élu, mais c'est systématiquement qu'il devrait réagir.
Bon, ils n'ont pas fait. Ils ont privilégié la voie de négociation,
écoutez,
de dialogue.
Écoutez, jamais ces gens-là dialoguent. Ce sont des gens, si les chefs d'État avaient réagi automatiquement, sans crier sur les toits, que l'opération-là devrait échouer, le poussin devrait être étouffé dans l'œuf et que vraiment la démocratie serait rétablie. Gouverner, c'est prévoir. Et ces chefs d'État-là devraient anticiper même. Ils ne l'ont pas fait. Et aussi, c'est de leur faute. L'exemple Macky Sall est là. Le Sénégal allait brûler. Et personne. On a laissé Macky Sall faire ses bêtises, tuer les gens, emmener les gens à s'entretuer, jusque empêcher ses pères politiciens, ses compatriotes, qui ne sont pas de la même obédience que lui et qui veulent postuler, briguer la présidence, les traîner par terre.
Il est revenu sur sa position pour Macky Sall.
Mais après combien de morts, après combien de destructions, après combien de pertes de temps que l'Afrique se réveille.
Maintenant, êtes-vous pour ou contre la position actuelle de la CEDEAO? Tout ce qui se passe. La même question avec vous deux.
Oui,
hein,
je demande à la CEDEAO de s'assumer et de s'assumer avec intelligence. Et je demande à la communauté internationale d'aider, de soutenir, afin que l'état de droit soit rétabli au Niger et que le président élu soit reconduit et que ce terroriste-là, avec sa bande, puisse comparaître devant le peuple nigérien pour répondre. Et même, il est préférable de mettre en place une cour de justice interafricaine pour pouvoir juger ces gens afin que ce soit un exemple. Gagner le pouvoir, c'est par la paix. Et gérer le pouvoir, c'est par la paix. Et l'armée, le rôle régalien de l'armée dans un État, c'est d'assurer d'abord la sécurité des institutions, la sécurité du pays, la sécurité des biens et aider à ce que le pays se développe. Et l'armée n'est pas là pour pouvoir corriger les choses.
Monsieur Ndouya Bella, il y a des voix qui s'élèvent de part et d'autre pour critiquer l'action de la CEDEAO ou même accuser la CEDEAO de parti pris. Parce que pourquoi les présidents ouest-africains n'ont pas réagi par rapport à la situation qui a eu lieu au Mali, en Guinée et même au Burkina Faso? Pourquoi c'est maintenant qu'ils prennent le bâton pèlerin pour réagir?
Oui, vous avez entièrement raison. C'est un phénomène qui est devenu assez récurrent. Et donc, je suis entièrement d'accord avec Benimba lorsqu'il a dit gouverner ses pouvoirs. Il faudrait que les chefs d'État, en même temps, il y a des textes qui existent qui interdisent l'accession au pouvoir par la force. Mais le mécanisme institutionnel prévu à cet effet n'a pas été mis en place par les chefs d'État. Il faudrait qu'ils se concertent et qu'ils accordent leur vino au niveau de, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Si des cas comme ça se produisent, qu'on accorde. Parce que là, on a affaire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question interne. Et puis les affaires intérieures à l'échelle des Nations Unies qui prévoient qu'on ne doit pas intervenir comme ça dans les affaires intérieures. Ça, c'est un principe qui est au niveau international consacré par la Charte des Nations Unies. Alors, lorsque là, il y a violation manifeste des droits de l'homme, à ce moment, la communauté internationale peut intervenir. Or là, c'est un coup d'État. Et puis est-ce qu'on doit aller intervenir directement? Moi, je suis pour que vraiment, qu'au niveau que les chefs d'État s'entendent entre eux et qu'un dispositif militaire soit mis en place. Et dès qu'il y a un coup d'État, et comme il y a un coup d'État, automatiquement, ce dispositif-là intervient pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais là, on est déjà...
Ça a pris du temps,
Ça a pris du temps. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a un gouvernement qui est déjà installé. Est-ce qu'il faut aller faire la force, tout ça? Si Bazoum n'était pas là-bas, oui.
Mais là, le 20e jour.
Il est encore là, pris en otage avec sa femme, aller opérer. Et son fils également. Et puis, un coup de force à ce moment-là, je pense que c'est assez périlleux. Il faudrait qu'au niveau de la CEDEAO,
qu'ils réfléchissent d'avoir la sécurité de ce président ainsi que des institutions.
Donc c'est extrêmement
Mais le danger,
je suis pour, mais il faudra en amont.
Le danger, la CEDEAO arriverait par exemple à l'option militaire, que craignez-vous concrètement?
Ils vont abattre Bazoum, c'est un militaire. Il est déjà pris en otage. Si on procède par la force, la solution pour eux, c'est d'exécuter Bazoum et sa femme. C'est ce qui va arriver.
Et leur sort aussi.
Leur
sort serait scellé.
Oui, leur sort serait scellé. À ce moment-là, le président ivoirien il a dit non, ce n'est pas la guerre. Mais c'est la guerre, manifestement, s'ils attaquent. On va décaler la guerre aux petits qui ont déjà pris position. Et puis alors vous savez, même tout à l'heure, il nous a dit non, c'est la Russie. Moi, je ne m'aventure pas parce que je ne peux pas dire ce que je ne maîtrise pas. Vous voyez déjà la population qui s'est soulevée, elle a dit non. Ils soutiennent même les putschistes en place. Ils ont dit non, à bas.
Une partie de la population s'est soulevée,
nous on soutient les putschistes, on soutient, etc. Donc c'est extrêmement périlleux. Donc je n'ose pas m'aventurer.
Monsieur Bendonga, par exemple, est-ce que c'est une manifestation interne, une manifestation populaire, lorsqu'on voit les jeunes manifestants qui soutiennent les putschistes en brandissant le drapeau russe et le drapeau
condamnant
les Nigériens?
C'est ça, Armando, c'est ce qui s'est passé d'abord en Guinée, ensuite au Mali, ensuite au Burkina. Et si vous voyez bien le déroulement de ces choses-là, et si on voit qui est à l'origine de ces choses, c'est la Russie. Et c'est Bendunga qui le dit. Donc, il ne faut pas que, lorsqu'on arrive au pouvoir, on essaie de marcher sur les sacro-saints principes de la bonne gouvernance. Qu'a fait ce monsieur, ce président
Bazoum?
Bazoum.
À seulement 2 ans,
l'opposition ne pouvait pas se manifester. Vous savez aussi, il faut qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui puisse contrôler. Et lorsqu'on voit que le monsieur gère mal le pays, donc il prend son pouvoir, c'est le feu vert. Ça ne va pas, feu orange. Ça ne va pas, le feu rouge. Parce que si nous condamnons les coups d'État, mais il faut comprendre aussi ceux qui font les coups d'État par rapport à la souffrance de la population. Et vous savez, ce petit machin de chef de la sécurité au Niger, il a évité...
Monsieur Tiani.
Il a évité au président sortant d'être victime d'un coup d'État. Celui qui est élu, il lui a évité cette situation. Lui, il est devenu... le grand maître de la sécurité de ceux qui dirigent le pays. Et le péché de celui qui Bazoum, son péché,
c'est son remplacement.
C'est chercher à remplacer cette personne. Et aussi ceux qui dirigent, ils doivent avoir ce que je dis, la compréhension d'un homme d'État. Comment quelqu'un qui vous a tiré d'ennui, vous voulez le limoger, vous chantez ça sur les toits, Et vous savez, en Afrique, c'est pas comme... il y a son honneur, sa dignité. Il est frustré. Et ce cancre-là, au lieu de dire, j'ai servi l'État...
Il ne faut pas l'insulter, c'est un président.
Écoutez, c'est un cancre parce que quelqu'un d'intelligent ne peut pas faire ce que ce monsieur qui a servi longtemps, ce monsieur-là, le prendre en otage et le déshumaniser. Lorsqu'on déshumanise quelqu'un, la manière avec laquelle il a traité le président Bazoum, mais c'est en violation flagrante des minimums principes, sacro-saints principes de droits de l'homme
et
du respect de son ennemi. Même en guerre, si vous arrivez à blesser quelqu'un, mais vous prenez soin de cette personne-là, vous la soignez, vous la nourrissez et vous la mettez à la disposition des structures chargées de le juger et non de faire de
maintenant
lui un esclave et le mettre dans sa maison fermée avec des chaînes.
Et on tend vers le 20e jour. On est dans le 18e jour aujourd'hui de la détention de M. Bazoum et avec toute sa famille. Mais son parti politique de M. Bazoum a décrié sa situation ou les conditions dans lesquelles le monsieur se trouve en ce moment. C'est un peu délicat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si on brandit l'option militaire? Ce serait dangereux.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas me répéter.
On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
C'est ça. Si on brandit, c'est-à-dire que si on veut rétablir, on casse tout. On casse tout, ils vont exécuter, puis ça sera guerre sans merci.
On ne peut pas.
Donc on va assister à un embrasement du pays. Comme ça, je pense que c'est.
Et c'est ça, c'est le risque.
Voilà, c'est le risque. Il y a vraiment un risque.
Dans ce cas, l'option diplomatique.
C'est la négociation. C'est vrai qu'on ne doit pas réserver, c'est un ancien président de la République. On doit plus réserver un traitement humain et dégradant. Même s'ils l'ont pris en otage, on doit l'entretenir, comme il a dit tout à l'heure. Mais réserver un traitement inhumain et dégradant à un ancien chef d'État, vraiment, c'est regrettable.
Oui, monsieur.
Et si vous voyez bien comment ces putschistes-là opèrent, leur jeu est bien préparé d'avance. Ils ont préparé...
Ils ont déjà mis en place pour votre gouvernement.
Oui, ils ont mis en gouvernement. Mais tout a été préparé. D'abord, créer le flou. Est-ce qu'il y a un coup d'État ou non? Le temps de voir les réactions, de monter la population, de justifier ce qu'ils veulent. Et maintenant, c'est d'étape en étape qu'ils ont procédé. Mais, s'il vous plaît, aujourd'hui, dire ne pas intervenir pour rétablir la légalité constitutionnelle au Niger, tous les cancres du monde vont se dire demain, il faut créer les situations et nous allons réussir notre coup. Le faire, c'est qu'ils vont utiliser la population comme des boucliers. Ils vont les financer. Ils vont les jeter dans la rue. Et je pense que ceux qui sont de l'autre côté de la communauté internationale et de la CEDEAO ne sont pas des gens qui sont nés de la dernière pluie. Ce sera une césarienne qui sera faite au Niger et je pense
mais
qu'il
toujours
y aura
l'option
pour l'instant
l'option
vigile la voie dialogue
voilà
de négociation en négociation
c'est
ce qu'il faut privilégier.
Il y a une issue du dialogue en ce moment.
Si vous avez vu comment les négociations ont été menées, la bonne foi de la CEDEAO et la bonne foi de la communauté internationale, combien d'émissaires sont allés, même le fils d'Ebi du Tchad est allé, ils l'ont renvoyé,
les Américains etc,
ils l'ont renvoyé dans les corps. Ils sont allés jusque tenter le Tchad d'organiser l'invasion du Niger, que l'armée française est partie, un avion a décollé du Tchad pour aller là-bas. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment, qui ont bien huilé leur mécanisme, connaissant la communauté internationale et le souci de la communauté internationale d'éviter le bain de
Monsieur Dui, déjà même les poutistes ont le soutien de certains poutistes de d'autres pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso aujourd'hui. Si réellement ce soutien s'avère nécessaire ou bien ce soutien est vrai, vous pensez qu'avec la guerre que la CEDEAO va déclarer au Niger, certainement la communauté ouest-africaine ne va pas éclater?
C'est ce qu'il faudra constater, oui, parce qu'il y en a qui soutiennent déjà les putschistes. Ils vont vouloir les armer et puis voler militairement à leur secours. Mais ça sera encore une guerre que moi je ne saurais qualifier. C'est pour ça, c'est pour moi, de mon point de vue, il faut privilégier la voie du dialogue. Ça peut durer aussi longtemps que possible, mais pour l'instant, les nerfs sont véritablement surchauffés. Donc il faudrait aller posément et calmement. Ça va prendre le temps qu'il faut. La négociation, il n'y a pas de délai. Et donc progressivement, même, vous voyez, on a constaté qu'un gouvernement a été déjà mis en place. Donc il faut aller petit à petit et progressivement, on parviendra à une solution vraiment transactionnelle. Il faudrait transiger. il y aura des transactions de part et d'autre et on parviendra à un consensus pour éviter des casses. Mais je pense que moi, de mon point de vue, il vaut mieux privilégier la voie du dialogue
que la solution militaire. Et devoir continuer, devoir aussi s'élève pour, comme M. Bendonga dit, il a vu la main de la Russie derrière cette situation. Mais aussi, de l'autre côté, on voit les poutistes qualifient M. Bazoum d'un proche des pays occidentaux.
Mais vous savez, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Et pour monter la population, pour les suivre, il a dit ce qu'il a dit. Mais écoutez, je pense que Bazoum, l'autre là...
Monsieur Tiani, le général qui...
Oui, ce général pushiste là a placé la barre même au-dessus de la hauteur où il doit la placer. Et juste pour embêter la communauté. Et vous savez, la Russie aujourd'hui, le système russe, c'est d'emmener tous les pays africains à vomir la France. Aujourd'hui, c'est le bouc émissaire partout, c'est la France, même en République centrafricaine. Mais depuis, la France s'est retirée d'Afrique, petit à petit, et elle est là, elle se tait. Laissons la France, les Français...
Non, c'est pas le cas de République centrafricaine.
On parle de ça, hein. On parle du fait que les Français ont accusé M. Bazoum d'être proche, proche des pays occidentaux.
Oui, écoutez, vous voyez l'investissement que la communauté internationale a eu à faire au Niger. Même l'autre, la Chine, a investi pour le développement du Niger. À telle enseigne que, mais dit, les mandats présidentiels ne sont que de 5 ans.
Et justement, c'est pour ça qu'il fallait, même s'il a commis des bévues, il faut attendre la fin du mandat. Parce que, in fine, c'est le peuple qui doit le censurer.
Voilà, Est-ce qu'on avait besoin de plus de temps pour ça, puisse aider à ce que ce monsieur-là finisse son mandat et que lui-même, s'il veut postuler, il est citoyen nigérien, il peut aller, mais dire que avec, vous voyez, le frein que le développement et le progrès du Niger a connu avec son putsch-là, vraiment, je demande à ce que qu'un coup d'État en forme de césarienne puisse se faire pour que ce monsieur-là, on puisse le traîner vivant, menotté devant le peuple et sauver la vie.
Et la bonne conclusion, ce que vous avez tiré, il faut respecter la volonté du peuple. Oui. Un président élu, je pense qu'il appartient au peuple.
Vox populi, sanctionner. Vox dei.
Même s'il a mal agi, c'est le peuple.
C'est le peuple qui doit le juger.
Il faut condamner ce coup de force au Niger.
Je vous coupe et puis passons à notre sujet du jour. C'est le débriefing des résultats provisoires du vote référendaire. Selon l'autorité nationale des élections, le oui a remporté avec plus de 95% des voix contre 4 de non. Monsieur Bendonga, vous avez battu campagne contre ce projet du changement de la nouvelle constitution. Vous avez prôné le non, mais il n'a pas marché. Quel est donc votre point de chute, monsieur?
Je n'ai pas prôné le non, j'ai prôné l'abstention.
Alors, c'est ça.
Voilà. Et l'abstention a été un succès. Si toute la classe politique de l'opposition avait agi comme je l'ai fait, je pense que vraiment, on trouvera les bureaux de vote pratiquement vides. Et les bureaux de vote ont été presque vides. Mais vous savez bien, lorsqu'un dictateur organise une élection ou un référendum, c'est pas pour la perdre ou le perdre. Et Touadéra a bien huilé son mécanisme. Vous savez, tout le processus électoral référendaire a été organisé par des prestidigitateurs. Si vous prenez la cour l'ANE, Moruba a dit que vraiment, lui, il n'avait que les élections municipales à organiser et non législatives. On lui a foutu...
Et non référendaires.
Et non référendaires. On lui donne 3 milliards 500 millions. Mais l'argent est là pour que je bouffe. Il tire de son chapeau vraiment le mécanisme pour pouvoir organiser le référendum. Lui, l'ANE est là pour organiser les élections et les référendums. Le président de la République lui a demandé de faire cela et a mis de l'argent à sa disposition. Et s'il a fait ça, c'est pour qu'à la fin, in fine, il puisse dire que ça a été un succès et le prestidigitateur,
Le président de l'ANE,
Mathias Moruba, sort une couleuvre, un serpent devant les gens qui sont là. Il a déjà fini son travail. Donc, nous, aujourd'hui, comme le disent les producteurs de vin, puisque le vin est tiré, il faut le boire jusqu'à la lie. Moi, je ne reconnais pas ce référendum, ni les résultats de ce référendum, ni la nouvelle constitution qui est inconstitutionnelle, parce que l'institution, les deux institutions qui devraient nous garantir un état de droit, que sont le Conseil d'État et ensuite la Cour constitutionnelle, au moins le Conseil d'État s'est déculotté, mais jusqu'à ce pour dire mais non, il ne peut pas, il est incompétent.
Vous voulez parler de votre requête de la fois
dernière. Ma requête,
oui,
que le Conseil d'État se déclare incompétent, mais la Cour constitutionnelle que j'ai saisie et qui doit répondre, elle n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Pire que de se déculoter, mais la Cour constitutionnelle n'a pas donné suite à cette requête-là.
Et votre requête au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est par rapport à quoi?
Par rapport à l'inconstitutionnalité
du référendum.
Référendum.
Convoqué, mais déjà on a dépassé de cette étape, on est dans le
vote.
C'est à cause de
ça? Non, vous savez, la loi est là, la loi est dure. Et j'ai dit à la Cour constitutionnelle d'annuler ce procès. La Cour constitutionnelle n'a pas répondu. Mais vous savez, la liquidation de Daniel Darlan pour permettre à M. Jean-Pierre Waboué d'être à la tête de l'autre là, tout ça s'est fait dans l'illégalité. Et nous sommes allés d'inégalité en inégalité à telle enseigne que aujourd'hui je ne reconnais pas le résultat du référendum.
Et ça reste le résultat provisoire. C'est le résultat provisoire.
Non, mais vous savez, et la Cour constitutionnelle aura seulement à valider ce qui a été déjà fait.
On ne sait pas.
À valider ce qui a été déjà fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est juste validé et que vraiment, c'est un non-événement pour moi, le référendum constitutionnel. Je ne reconnais pas cette constitution.
Monsieur Ndouya Bella, vous êtes l'un des acteurs de ce projet de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, selon les résultats provisoires de l'Autorité nationale des élections, le oui a remporté avec 95%. Et quand on voit le chiffre présenté par l'ANE, ça dépasse même les élections présidentielles, ou bien l'élection présidentielle ou la présidentielle de 2021.
Oui,
comment expliquez-vous cela?
Mais exactement, il faut expliquer scientifiquement. Bon, j'entends, ça c'est son droit. Référendum, pas fait la confusion entre référendum et élection présidentielle ou législative. On fait une élection présidentielle et législative, bon, ce parti politique veut reconnaître ou pas, mais le référendum, c'est l'expression de la volonté du peuple qu'on doit respecter, M. Bindunga. Le référendum, ce n'est pas une élection. L'élection, on élit des personnes. Là, c'est juste une question, c'est le peuple qui s'est prononcé. Donc, on a vu majoritairement, avec le résultat, premier résultat proclamé par l'ANE, 1500 votants. 1 million. Voilà, 1 500 000 votants. Ce n'est rien. Vous avez dit, il y a une différence entre le corps électoral de l'élection présidentielle et le corps électoral convoqué pour le référendum. Il ne faut pas insulter le peuple en disant on ne reconnaît pas qui est M. Bindunga. Il faut dire je ne reconnais pas la décision du peuple centrafricain à partir du moment lui-même. Il ne cesse de répéter de cette formule qu'il adore très bien, la formule latine. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, M. Bindunga, n'est pas la voix du diable, c'est la voix du Dieu. Quelle que soit votre position, la majorité s'est prononcée et une fois qu'elle sera validée, cette majorité, par la Cour constitutionnelle, et tout le monde doit s'incliner. C'est le principe de la démocratie.
Donc il est hors de question. Bindunga fait partie des 4%.
Il est hors de question. Oui, il fait 4%, mais oui, en plus.
Et aussi, il faut respecter
s'il y a une décision, c'est la majorité qui l'emporte. Dans le principe démocratique, c'est ça. On procède à une élection ou à une votation, comme c'est le cas du référendum, si la majorité l'emporte. La majorité, c'est l'expression de la volonté générale. Et lorsque la volonté générale s'est déjà exprimée, ben, les volontés minoritaires s'inclinent et respectent la décision de la majorité. Alors, il a battu campagne oui, pour l'abstention. Mais il y en a qui ont décidé de dire de boycotter. Eh ben, je suis au regret de dire, même dans sa circonscription, ben, il n'y avait pas eu d'abstention. Les gens sont allés voter. Dans certaines circonscriptions, même de l'opposition démocratique, il y a eu plus de non. Alors qu'ils ont incité, il y a eu, de mon point de vue, ce qu'on appelle un boycott du boycott de la part de la population centrafricaine. Ils ont voulu boycotter le référendum et le peuple a lancé un message. C'est du boycott. C'est ce qui s'est passé et donc il faudra être attentif et qu'il faudra lire. Vous voyez, c'est le corps électoral. Le peuple centrafricain est devenu un électeur
rationnel. C'est comme ça que moi je vois, électeur rationnel. Ce n'est pas un électeur figé dans son appartenance idéologique et partisan, non, comme ça se faisait par le passé. L'électeur figé dans son appartenance politique, non, il est devenu un électeur rationnel qui voit et puis qui pèse, qui fait une analyse balance, coût et avantage. Quel intérêt ai-je à suivre Mutuma Benuga alors que, voyez-vous, depuis un certain temps, il y a un président qui est là et qui a fait restaurer un minimum de paix. Est-ce qu'on doit... C'est ça l'électeur rationnel. Et donc, scientifiquement, il y a eu des courants d'analyse politique comme ça qu'il faut mettre en exergue et pour comprendre. Et puis là, je pense que c'est cette lecture-là que je donne. Et donc, il faudra, c'est un message pour dire qu'il faudra se méfier du peuple. Voilà. Le peuple est devenu un électeur rationnel composé à majorité de jeunes qui sont formés, éduqués et savent vraiment dans quel camp il faut
évoluer. Monsieur Bendunga, vous reprenez la parole pour répondre avant qu'on évolue.
Oui, Monsieur Ndouyabel vient de me dire de me méfier du peuple. Mais quel politicien est-il avec son toit d'érable? Est-ce qu'on peut se méfier d'un peuple? Non, il faut plutôt craindre la colère du peuple. Le peuple centrafricain, non, nous ne disons pas la même chose. Vous êtes un prestidigitateur du langage et vous êtes là pour tourner les gens en bourrique.
Mais non,
mais
pas
vous
du
ne
tout.
Pouvez pas tourner pas votre tout. Interlocuteur Joseph Bendunga en bourrique. L'abstention.
Qu'est-ce que c'est la belle que vous
triomphé.
Me donnez tout le temps.
Les
gens en bourrique.
S'il vous plaît, mon frère.
Quand moi,
s'il vous plaît, mon frère. Attendez, vous avez parlé. Je vous ai écouté. Laissez-moi le temps de parler.
Monsieur Bendunga, continuez.
L'abstention, ce que j'ai prôné, a triomphé. L'abstention a triomphé. Et c'est une poignée de gens. C'est une poignée de gens. Je n'ai pas voté non pour que vous puissiez dire c'est le oui qui a triomphé. Et moi, je suis du camp du non. Je suis du camp de l'abstention. Et l'abstention a triomphé.
Comment?
Mais ne me coupez pas. Écoutez,
non,
s'il vous plaît.
Vous avez apporté la preuve.
S'il vous plaît, Monsieur Armando. Dites à M. Ndouyabela.
Je gère. Je vous en prie.
Je vous respecte.
Je ne peux pas vous poser des questions.
Moi, j'ai soif du savoir.
Attendez, lorsque vous aurez la parole, posez-moi votre question. Je répondrai à cela.
Gagnez du temps.
Écoutez-moi.
Je vous respecte.
Je gère.
Je ne suis pas du tout d'accord.
Je gère.
Je vous respecte.
Je gère la situation. Je gère le débat. Pour ça, faites-moi confiance. Vous aurez votre temps équitable. Équitablement pour
vous
parler.
Cette élection-là, c'est vraiment la pire des élections qu'ait connue la République centrafricaine, que ce soit un référendum ou bien une élection avec des candidats. Et M. Ndouyabela voulait me faire apprendre que je confonds référendum et élection. Non, je ne confonds rien. Je suis un homme politique, je ne suis pas un aventurier. Et quand je faisais la politique, je n'ai pas vu M. Ndouyabela ni Touadéra dans les rues à Bangui. Et c'est depuis plus de 33 ans que je me bats dans ce pays. Et c'est pour la première fois que j'ai vu quelqu'un qui a été élu, qui a reçu le suffrage du peuple centrafricain, et se retourner contre ce peuple. Si j'ai dit que ce référendum est inconstitutionnel, c'est en amont, avant l'organisation. Et ensuite, ce référendum a été un échec, parce que les Centrafricains ont refusé de se présenter aux urnes. C'est une infime minorité de Centrafricains qui est allée. Le MDRC est en train de finaliser ce travail-là pour rendre ses conclusions. Et le peuple saura, le moment venu, la réalité sur ce qu'a été ce fiasco organisé de main de maître par des prestidigitateurs qui se sont transformés en aventuriers politiques pour pouvoir jouer avec le peuple centrafricain qui, dans un très bref délai, va les rattraper.
Monsieur Ndouyabela, votre équipe de campagne a même chanté la victoire avant la proclamation des résultats par l'autorité nationale des élections. Des voix s'élèvent pour crier à la mascarade électorale. Êtes-vous fier du travail accompli? Parce qu'on voit déjà le résultat, les tendances que vous avez publiées, et ça corrobore à ce que l'ANE en a publié aussi. Donc les gens pensent qu'il y a eu une connivence. Est-ce que vous avez eu cette information?
M. Benangoudi, il a fait la politique pendant 33 ans, et je n'étais pas là avec le professeur Faustien quand je te dirai. Oui, mais là encore, il est en train de faire la politique de l'autruche. Pendant 33 ans, Il n'a fait que faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire s'abstenir de regarder la réalité en place. Les chiffres annoncés par l'AENE indiquent que le oui l'a emporté avec 1 069 000 voix. J'étais là, même si je n'étais pas là avant. C'est vrai que moi, ça a été la première fois où j'ai participé de bout en bout à une campagne. Les élections, ils sont déroulées, moi, je n'ai jamais participé. Parce que chaque fois, ça correspondait au moment où moi, j'étais absent du pays. Mais là, je suis resté. Le jour du vote, c'est Bendunga, je suis allé moi-même. J'ai sillonné tous les bureaux de vote parce que le directeur de campagne m'a dit, m'a confié une mission. Il y en a qui devaient aller vers Bimbo, une équipe était allée vers Bimbo et moi, 8e Ebegua, bureau de vote par bureau de vote. On est parti à 11h et puis on a fini vers 16h. Vers 16h, c'est Bendunga. Moi-même, de mes propres yeux, je les ai vus. À partir de 14h, le temps déclinait. Je voyais des gens affluer, aller voter vers les urnes. Ça, c'est moi, je les ai vus de mes propres yeux. Alors maintenant que vous parlez d'abstention...
Vous parlez de quel bureau de vote, par exemple?
Le bureau du 8e. C'est-à-dire que tout le bureau de vote, du 8e jusqu'au niveau du Bégoua. Tous les bureaux de vote...
Et donc, c'est vous là. Qui supervisez.
Non, on a fait simplement sillonner pour regarder et voir un peu comment ça se passe. Et donc, moi, j'ai vu. À chaque fois, j'ai les bulletins bien. Les votes, c'est doublé, comme l'a reconnu les observateurs internationaux. Et donc... S'il dit maintenant il y a abstention, je dis, mais moi-même, je suis allé sur le terrain, j'ai vu les gens se déplacer massivement pour aller, mais il veut dire qui s'est abstenu. Puisque moi-même, j'ai vu des gens, des citoyens centrafricains dans tous les bureaux de vote, dans l'après-midi. Il y en a, moi, je pensais que bon, moi-même, il y a un de la campagne qui était allé à Aline Dao Kempe. Vous savez ce qu'ils ont rapporté comme information qui m'a vraiment émerveillé, que pendant que même les responsables de l'ANE avaient pris du retard pour s'installer, les gens, les citoyens centrafricains avaient déjà fait la queue à 5h du matin. Et là, M. Bendunga va affirmer ici, parce qu'il a l'habitude de le dire, c'est faire des affirmations comme ça gratuites qui ne reposent sur aucun fondement. Les chiffres sont là et parlant, il dit qu'il y a eu abstention.
Revenez sur ma question de tout à l'heure avec vos tendances publiées en amont, mais qui reflètent les résultats.
Mais bien sûr, mais vous savez, il a la pratique, c'est un grand homme politique. Dans les tendances, il y a eu des représentants du bureau de campagne qui étaient là. Et donc, il notait. Après le vote, il y a eu délibération et chaque fois, les chiffres, il y a dans la direction nationale de campagne, il y a une commission dénommée
qui
commission
compile.
Des opérations électorales. C'est présidé par le ministre Balalou. Et donc, les résultats étaient compilés au fur et à mesure. Quand on organise les élections, on ne reste pas comme ça, bras croisés. Non, on a assisté. Il y a des éléments, des représentants de la direction nationale de campagne qui étaient là et qui, au fur et à mesure, compilaient et qui renvoyaient automatiquement. Donc, les résultats, ce n'est pas des résultats imaginaires ou imaginés. C'est des résultats compilés au niveau de la commission des opérations électorales qui reflètent les tendances de l'ANE. Donc,
voilà, monsieur,
ce n'est pas une invention, une rêverie.
Devant un système bien organisé, huilé, de fraude, des bureaux de vote vides, pratiquement vides. Et on a bourré les urnes. Oh. On a utilisé toute la chaîne de l'administration, commençant par les chefs de village et de quartier, pour pouvoir obliger les gens à voter oui. Et même, il y avait pratiquement pas de bulletin non, mais plus de bulletins oui. Et quand il parle d'observateurs, mais tout a été bien fait de telle sorte que les observateurs sont passés comme ça sans découvrir les réalités que nous avions pu saisir. Et à Kokoro 2, j'ai attrapé un chef de quartier qui s'est assis comme ça avec des gens qui défilent devant lui. On relève les noms des gens et on donne l'ANE est dans le système de fraude. La police, la gendarmerie, les forces, les corps habillés, tout le système qui a été mis, les gens qui sont venus pour voter, non, on leur dit non, il n'y a plus de bulletin, non, c'est oui. Et certains sont partis sans voter. Et ça, la petite, quand il parle d'1 million et combien dit, mon frère.
Et maintenant, l'autre question, c'est sur l'ancien fichier de 2021.
Oui, dire
que l'ANE a tiré le résultat de ce vote, mais parce qu'on n'a pas.
Ils n'ont pas réactivé les fichiers, comme l'exige la loi. Mais les chefs de village, de quartier, sont venus avec des papiers, des feuilles vierges pour relever le nom des gens. Les gens ont même voté. De la manière dont on a créé obliger les gens de voter après leur avoir versé de l'argent, tout et tout, malgré que tout cela s'est fait, mais la fréquentation, la présence des gens dans les bureaux de vote était infime. Là où il y a l'obédience MCU, oui, vous allez voir une poignée de gens, et d'autre part, parfois, l'élection, le vote est terminé avant midi, même il n'y avait personne déjà avant midi. Donc, il dit que le peuple, vous parlez de quel peuple? Tout de suite, bientôt, hein, vous allez proclamer vos 95,27%. C'est ce que Jean-Pierre Wabué va valider. Mais vous allez voir comment vous allez gérer ce pays après. Parce que c'est ce même peuple-là, quand il a dit à Jésus, Hosanna, à sa rentrée dans Jérusalem, et c'est ce peuple-là qui se retournera pour dire, pendez-le. Crucifié. Mais Bendunga, c'est Joseph Bendunga qui dit ça, que toi dira l'entendre. Je ne le dis pas à Nduya Bella.
Vous me faites des affirmations gratuites, sans preuve.
C'est pas à vous. Je le dis à toi dira parce que...
Mais non, ne parlez pas à toi dira. Quand vous dites que le peuple, c'est vous, le peuple, c'est moi.
Oui.
Chacun de nous deux, nous sommes détenteurs de la souveraineté.
Alors,
pour vous, le peuple, c'est vous et moi.
Vous et moi, nous ne sommes pas le
peuple. Mais ne m'interrompez pas, vous revenez encore.
Vous et moi, nous faisons partie du peuple centrafricain. Quand vous dites vous et moi, nous sommes le peuple centrafricain.
Monsieur Bendunga,
vous et moi, nous sommes une frange de la population.
Prenez note, oui, allez-y, monsieur Nduya.
C'est parce qu'il m'a doigté.
Mais oui, monsieur, fait partie du peuple.
Oui, quand nous sommes dites, vous et moi, vous et moi, nous ne sommes pas le peuple.
Nous constituons le peuple.
Une fraction du peuple.
Mais oui, mais tout
comprenez. Oui, exact.
Chacun de nous est détenteur d'une parcelle de souveraineté et nous allons aux urnes nous exprimer. Et lorsqu'on comptabilise de voix, la majorité l'emporte, la minorité s'incline.
C'est la loi de la démocratie. Qui a gagné.
Mais alors qu'est-ce
mais
que
c'est l'infime
mais un million.
Monsieur.
Bon, apparemment, je pense que là, si vous faites la politique de l'autruche, c'est extrêmement difficile, on ne peut pas avancer. Il faut accepter, la réalité est là, les chiffres. Soit il ne faut pas dire qu'il y a eu bourrage des urnes, mais vous n'en avez pas pris les photos. On est quand même dans une société moderne avec des portables, vous pouvez filmer. Moi, je suis juriste. Si vous me dites, vous apportez les éléments de preuve pour me convaincre, eh bien, je dirais oui, mais il n'y en a pas. Et encore, si vous avez constaté qu'il y a des irrégularités, il est à vous d'apporter ces justificatifs. Il y a encore la période de contestation qui court. Vous avez 10 jours de délai pour aller présenter à la Cour constitutionnelle qu'il y a eu des irrégularités. Au niveau de tel bureau de vote, vous avez constaté que les chefs ont... Il y a eu même, là, l'OJT à Bégoua, il y avait même plus de bulletins. Et les gens, pas de bulletins de non, mais de bulletins, il n'existait pas. De oui, ça n'existait pas. Et donc, les représentants de l'ANE, et c'est selon les consignes données au niveau, ont dit, bon, ben, s'il n'y a pas de bulletin, il faut marquer le WIP au papier, etc. Et c'est une méthode qui a marché parce que les bulletins confectionnés étaient en...
Est-ce que cela est conseillé par le code électoral?
C'est l'ANE, ça c'est le bulletin confectionné par l'ANE. S'il n'y en a plus, c'est une question matérielle. Donc rapidement, on peut parler aux plus de gens et prendre des bouts de papier, mettre oui ou non, c'est possible. Voilà. Même eux à l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'ils votent, non?
Mais pensez-vous pas que les critiques formulées contre ce résultat sont-ils quand même fondées? Si vous parlez de feuilles, or le code électoral n'a pas...
L'article 44.
De quoi dit quoi?
Du code électoral.
Oui, qui dit quoi?
C'est les votes en Centrafrique doivent se faire par bulletin unique. Vous avez fait ce référendum là avec deux bulletins de couleur.
Mais alors, mais c'est pas interdit?
C'est interdit par le code électoral.
Mais c'est prévu, mais pas le cours et la procédure référendaire. Si vous voulez, je vais vous donner la lecture.
Non.
Voilà, non. Vous voyez, d'abord, vous lisez seulement le code électoral. Regarde, je vais vous lire l'article 10. L'autorité nationale met à la disposition des électeurs les bulletins de vote de couleurs différentes et portant respectivement des caractères oui et non.
Cette couleurs là,
c'est la loi que vous-même avez votée.
Non.
Ah, mais bon, pourquoi vous l'avez votée? Mais il fallait réagir à l'Assemblée nationale.
C'est vous qui l'avez votée. Les dispositions du code
c'est vous qui l'avez votée.
Mais qu'en est-il de l'article 44 du code électoral? Comment dit M. Bendunga?
Qui parle de bulletin unique. On est là sur la loi référendaire. Ils avaient demandé une loi référendaire qui a été votée au mois de décembre et qui prévoit toute la procédure à suivre.
S'il vous plaît, M. Nduya Bella, lisez l'article 44.
Mais lisez-le.
Non.
Vous pouvez le lire vous-même.
Donnez ça. L'article 44. L'article 44, ça c'est le chapitre 5 des bulletins de vote. L'article 44 dit « Le vote pour toute consultation électorale ou référendaire se déroule à bulletin unique.
Oui.
À bulletin unique, ça veut dire que ça, c'est le code qui est encore en vigueur.
À bulletin unique, comment?
Mais voyez.
Il y a un bulletin unique de non et bulletin unique de oui.
Non, est-ce que à bulletin unique, on peut, sur une feuille, on met non à côté et oui à côté?
Lisez,
peut-être c'est ça le bulletin. Il l'a déjà lu, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois lire?
Voilà.
Mais moi, je vous ai lu l'article 10.
Cette loi-là a été votée et promulguée le 13 janvier.
Mais c'est une loi.
Et donc, est-ce que cette loi, abroge le code électoral?
C'est la loi.
C'est une loi.
Ça aussi, c'est une loi. Elle est antérieure à celle-là.
Oui, mais ça, c'est la nouvelle loi.
Mais je vous parle de ça.
La nouvelle loi abroge.
Pour l'organisation des élections.
Mais non, attendez.
Voilà, mon frère.
Je vous lis l'article.
Mais lisez, non, cet article-là, je le connais. Mais lisez aussi ça.
Ça, c'est le code électoral. C'est pour toutes les élections.
Mais cette loi-là est antérieure à celle-là.
C'est pour toutes les élections.
Le code électoral, le code
électoral, mais c'est une loi.
Mais le référendum,
le référendum a une loi spécifique relative à l'organisation.
Ça, c'est pour le code.
Non,
c'est le code de toutes les élections.
Bon, s'il vous plaît, vous deux, je vous en prie,
Monsieur Ndoui,
Monsieur Benouga, entre la loi, entre la loi que vous avez en main et le code électoral qui vient avant.
Vous me ramenez après. La Cour constitutionnelle a dit oui, on peut aller au référendum à condition qu'on élabore une loi concernant spécifiquement. C'est ce qui a été
fait. Cette loi
a été élaborée en violation de cela.
En violation
de la loi. De la loi.
Vous me donnez, cette loi ici.
La loi qui 19-0011. Portant code électoral de la République.
Il y a deux lois concurrentes.
On ne sait pas.
Il
n'existe qu'une seule
loi
qui prévoit, qui fixe les procédures
référendaires. Faites à Bangui le 20.
Ça, c'est un débat inutile.
Non.
Il existe seulement une loi. Il existe une loi.
S'il vous plaît. On ne peut pas créer deux textes qui sont.
Non, on va trancher rapidement cette partie. On va trancher. La loi numéro.
Si vous m'avez dit que c'était la Constitution,
vous avez en main.
Ça a été promulgué quand?
Mois de décembre 2020.
Et ici, c'est le président de la République qui a promulgué. C'était quand?
C'est la loi de 99.
Le 20 août 2019.
Voilà. On n'a pas.
Est-ce qu'on a déjà abrogé cette loi promulguée par le président de la République actuelle,
M. Foussa Kanta? Vous voyez comment vous le système.
Cette loi, parce que ça fait deux lois.
Le système est en train de mettre ce pays-là dans la merde.
S'il vous plaît. Donc maintenant, on va arriver pour voir les deux lois qui s'appliquent maintenant.
C'est cette loi qui s'applique. Ça, c'est cherché.
Tant qu'on n'aura pas abrogé cette loi-là, cette loi n'est rien.
Voilà. Rapidement, le projet actuel, comme vous avez dit, c'est corrélé. Parlons maintenant de l'après-processus. Si la Cour constitutionnelle venait à valider le oui, le pays aura désormais une nouvelle constitution. Que deviendront les institutions issues de la constitution de 2016? Parce que est-ce qu'il y a, vous avez la fois dernière vous avez dit il y a des dispositions transitoires.
Ben oui, dans
mais comment est-ce que est-ce qu'on va qualifier par exemple les institutions pour les deux ans restants du président de la République?
On peut
parler de transition.
On ne peut pas passer de but en blanc ou brutalement comme ça d'un ancien système à un nouveau système juridique. Toujours dans tout texte juridique et à plus forte raison la constitution qu'on élabore, il y a toujours des dispositions transitoires. Sous la transition. On a élaboré la Constitution en 2016, il y a eu des dispositions transitoires. Parce qu'il y avait des institutions avant, on ne pouvait pas les faire disparaître comme ça. Là également, dans le cadre de la continuité de l'État, il y a une disposition transitoire qui dit et qui précise que les institutions restent en place jusqu'à la fin de leur mandat.
Donc c'est une disposition transitoire. La question que les gens nous ont posée
et que nous vous posons
aujourd'hui, c'est que est-ce que les deux ans après, si on promulgue, on promulgue la nouvelle constitution, c'est la nouvelle république.
Oui.
Et après?
Mais après, les institutions restent en place jusqu'à l'organisation de nouvelles élections.
Et on les qualifie des institutions transitoires. Ça veut dire que c'est dans la transition ou pas?
Et c'est le peuple qui dit les institutions en ce moment. Mais comme moi, vous le dites, les institutions transitoires. Bon, si vous voulez, on peut qualifier ainsi. C'est une disposition transitoire qui dit pour faciliter le passage de la 6e république à la 7e république, les institutions sous l'Empire restent en place jusqu'à l'organisation des élections. Donc, l'ANE,
le président de la République et les institutions vont travailler sur quelle constitution? L'ancienne constitution ou la nouvelle constitution?
Lorsque la loi est promulguée, c'est
automatiquement
cette
loi-là, ça rentre en vigueur.
Ça s'applique, c'est une d'application immédiate. Monsieur, on ne veut plus se venir, ça abroge, annule la
constitution de 2016.
2016 et puis on ne parlera plus de la constitution de 2016.
L'un des griefs portés par Touadéra pour demander l'élaboration pour élaborer la nouvelle constitution, c'est l'affaire de dispositions transitoires. Que voilà, on ne peut pas travailler avec une constitution
qui parle de transition,
qui parle de la transition, et que vous parlez de transition encore là. Nous irons de transition en Centrafrique.
Vous n'avez rien compris.
Non, surtout sum. Oui. Comme le disent les latins. Oui, en fait, moi, surtout sum, je suis sot et doué à Bouébéla, le professeur d'université.
L'intellectuel.
C'est l'intellectuel.
C'est ce que vous
tout
pensez.
Fait, tout fait.
Moi, je dis,
non, écoutez,
moi, je dis ce que je
écoutez,
pense.
Je pense que voilà. Les institutions qui ont été dissoutes par cette
je dis dans tout système.
Ce sont les institutions qui n'ont pas plu à M. Touadéra. Par exemple,
Vous voulez parler du conseil de médiation?
La médiation, parce
c'est seulement l'unique.
Oui, le président de ce conseil-là a refusé à contester l'élaboration de la nouvelle constitution.
Ah bon?
Et pour
vous
le punir,
mais vous êtes son porte-parole.
Laissez-moi parler. Quitte à lui de me démentir.
Le président Mbamba peut parler, vous n'avez pas besoin de parler
frère,
à sa place.
Mon frère Douyabela,
oui,
gardez
pas
votre calme.
Vous allez rebondir.
Vous allez rebondir. On lui a frappé dessus. Certaines institutions qui n'ont pas voulu contester cela, qui veulent, qui ne sont pas d'accord, mais qui ont accepté. Ce n'est pas pour que leurs institutions soient dissoutes parce que Touadéra est venu. Dès que Touadéra finit, c'est la Cour pénale. C'est des poursuites internationales à telle enseigne que monsieur veut mourir au pouvoir et il lui faut une constitution pour pouvoir rester éternellement au pouvoir. Et Touadéra partira avant la fin de ce mandat. Parce que la faim chasse le loup de la forêt et que le peuple centrafricain qui a trop souffert, trop trompé, dupé par le peuple centrafricain, Touadéra, cinq années, premier ministre, c'était la faillite de la RCA. Touadéra, président élu, 5 années, c'était la faillite. Son deuxième mandat, c'est la modification de la constitution. On verra le maçon au pied du mur. D'abord, c'est pas
le temps fait défaut. Hein. Désolé. Allez, vous rebondissez pour qu'on gagne du temps.
Non, merci. Quand on organise un référendum, le chef de l'État peut mettre également en jeu sa légitimité. En 1962, le général de Gaulle a organisé un référendum. Le peuple a dit oui. Ça lui a donné beaucoup de coups de franche, de légitimité. Ne me coupez pas, je vous fais une démonstration scientifique. Et en 1969, il a organisé encore le second référendum. Le peuple a dit non. Il a démissionné. Bon, attendez de voir. Là, le peuple a dit oui majoritairement, 1 million, ce qui donne beaucoup plus de coups de franche, de plus de légitimité au président Faustin Archange Touadéra. Donc, on va attendre 2009. Là, la démocratie, auquel vous voulez faire allusion, c'est toute la démocratie, hein, même l'alternance politique, ça procède du peuple. L'alternance politique, M. Bounoura, ne se décrète pas. Ça procède. Tout procède du peuple, puisque la démocratie, c'est le gouvernement du peuple,
d'État.
Par le peuple. Et pour le peuple.
Les coups d'État ont permis l'alternance. Coup d'État,
écoute, mais ne me perturbez pas. Donc, tout doit procéder du peuple. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, non, parce qu'on a supprimé la limitation du mandat, ou bien on a fait ceci qu'on voudrait maintenir ad vitam aeternam le professeur Faustin Archange Touadéra. Non, c'est le peuple qui, je dirai quand on va organiser les élections, c'est le peuple qui choisira.
Et donc, il sera candidat.
C'est le peuple qui choisira.
Il sera candidat après donc, la nouvelle constitution.
Ben, je le dis, c'est lui qui jouera aussi. Moi, je ne peux pas me parler à sa place. Je l'ai toujours dit, je répète que la fonction de pensée ne se délègue point. Lui-même librement. Le moment venu,
Touadéra est la voix de son maître.
Mais comment ça? Il m'a pas délégué pour venir ici.
Voilà, je suis venu les quartiers pendant le référendum.
Oui, le référendum, voilà. C'est pour sensibiliser le peuple. Le référendum est une décision du peuple et que je dois sensibiliser, apporter les éléments de clarification
monsieur
permettre au peuple de
choisir. Je suis désolé, sinon on va nous couper.
Merci.
C'est la fin de ce débat politique. Je suis désolé, le temps fait défaut. Vous allez poursuivre le débat chez vous à la maison.
Merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir été des nôtres comme d'habitude.
Tu vois comment le faire?
Oui, saluez-vous.
Voilà, on se salue. C'est le débat démocratique.
Et c'est le rôle le rôle de Radio Ndekeluka. C'est comme ça. Voilà. On fait le débat, oui. Mais on garde la quiétude, on garde la paix. Nous avons, à l'entame de cette émission, parlé de la situation Niger avec l'option militaire envisagée par la CEDEAO contre la junte au pouvoir et avec nos deux invités, Joseph Bendunga, député de Bimbo 3, membre membres de l'opposition démocratique, Alexiane Du et Alexis Nduyabela, j'allais dire, cadre du parti au pouvoir, le MCU, et l'un des rédacteurs de la nouvelle constitution. Merci à vous, vous deux, d'avoir
beaucoup,
répondu
Armando.
À notre invitation.
C'est avec plaisir.
Quand vous souhaitez bon week-end à vous, et mais surtout prenez bien soin de vous, vous qui nous écoutez, car on ne vit qu'une seule fois. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.